Bonjour à tous. Que le Seigneur bénisse sa parole, vous êtes d'accord? Amen. J'aimerais, juste après la prédication, si monsieur le pasteur le veut bien, que Pierre et Cathy rechantent « Je louerai l'Éternel ». Vous êtes d'accord? Bah. On se lèvera tous, et j'aimerais qu'au travers de ce chant, ce soit la conclusion de ce que je veux partager avec vous ce matin. Vous êtes d'accord? Et vous ne savez pas ce que je vais vous dire. Vous avez la foi, hein? Vous êtes formidable. J'aimerais ce matin, pendant que vous cherchez le texte d'Ésaïe 43, Ésaïe 43, vous dire le thème de ma réflexion. Ésaïe 43, j'aimerais vous parler du paradoxe. Ça ne vous plaît pas, peut-être? Non, mais si ça ne vous plaît pas, c'est pareil, c'est le sujet. Le paradoxe. Donc, Ésaïe 43, verset 24. « Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. » J'imagine un instant un père qui dit à son enfant « Tu me fatigues !» Et on attend que la suite soit le châtiment. Et le verset 25 nous dit « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. » Ça, c'est le paradoxe. Devant notre misère, nos lacunes, nos faiblesses, peut-être ce matin notre découragement, le Seigneur nous dit « Je ne t'abandonnerai pas. Je suis toujours avec toi. » Et j'aimerais ce matin que nous puissions nous arrêter sur quelques exemples, positifs, négatifs, peu importe. Tout d'abord, un témoignage d'un ami que je connais, peut-être vous le connaissez. Il s'appelait Saul, puis plus tard il s'est appelé Paul. C'est un ami à moi. C'est pas le vôtre, c'est le mien. Et un jour il dira, j'étais un jeune homme religieux, plus que religieux que tout le monde. Mais néanmoins, j'étais aveugle, perdu et dans une impasse. C'est pas tout à fait comme ça qu'il l'a dit, mais je vous le livre dans son témoignage. Et on peut parfois croire être bien, religieux, mais être à côté de ce que le Seigneur veut. Cette dimension du paradoxe de grâce que lui a eu pour nous, et nous parfois on est dur. Seigneur, donne-moi cet amour. Non pas dans une logique, une réflexion, ni une obligation dans ma vie, mais qu'il y ait l'onction sur mon cœur. Comme tu as été oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui sont blessés, brisés, pour renvoyer libre l'opprimé, qu'il y ait cette onction, Seigneur. Pour que je sois porteur de ce message, non pas seulement dans mes mots, mais dans la réalité de ma vie. Paul, mon ami, dira encore, j'étais sincère. Justifiant sa position et sa dureté en humiliant et en persécutant ceux qui étaient les disciples de Jésus-Christ. Il croyait, il faisait mal, il blessait. Il croyait qu'il avait raison. Alors pourquoi je parle de paradoxe? Il a fallu un miracle. Que le Seigneur ouvre ses yeux. Et quel miracle, parce que pour lui ouvrir les yeux, il lui a fermé les yeux. Paradoxe. Aveugle. Et non seulement le Seigneur lui ferme les yeux pour un temps pour prendre conscience qu'il persécute son Seigneur. Mais de plus, il lui dit, je t'ai choisi pour que tu ouvres les yeux de ce peuple païen. Et je dis, Seigneur, mes misères, mes lacunes, tu peux les transformer dans un service, un ministère qui te soit utile et qui te glorifie. Alors je veux arrêter de m'apitoyer sur mes limites, mes faiblesses, mes fardeaux, et croire que le paradoxe de l'amour de Dieu est capable de bouleverser un cœur et une vie. La mienne, pas la vôtre. Si ? Ah ! Oh, c'est pas magique ! Il a fallu 3 ans de désert pour l'apôtre du passé de Saul à Paul. Et croyez bien que quand Dieu a demandé à Ananias d'aller prier pour lui, ça a été difficile. C'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible. Et peut-être on a ce regard parfois sur notre propre vie ou sur la vie des autres en disant c'est pas possible. Mais Dieu, lui, c'est le Dieu de l'impossible, que son nom soit béni. Amen. Nous étions rebelles. Nous avons fatigué le Seigneur par nos péchés, nos lacunes. Et il dit, pour l'amour de moi, je te pardonne et je te libère. Que son nom soit béni. Au temps des juges, on a un homme, je pense que vous le connaissez, qui avait eu 70 enfants. Ça, quelqu'un qui a 70 enfants, pour l'école du dimanche, ça fait du bien. Seulement, à un moment donné, il y a eu un demi-frère. Et ce demi-frère, Abimélec, par jalousie, un demi-frère, il était de la famille. Par jalousie, il a tué 70 de ses frères sur une même pierre. Il en réchappa un seul, Jotham. Quelle cruauté. Oh, c'était avec une pierre, mais on peut tuer avec la langue. Et Jotham était devant deux montagnes, Ebal, la malédiction, et Garizim, la bénédiction. Et la logique aurait voulu qu'il monte sur la malédiction pour maudire celui qui venait de faire cela. Et il est monté, sur Garizim, le lieu de la bénédiction. Et arrivé sur la hauteur, il a donné une des plus belles paraboles de l'Ancien Testament, celle, une image, des arbres qui sont partis pour choisir un roi. Ils sont allés voir l'olivier, symbole de la paix. Non, ça ne peut pas marcher. Et ils ont fui. Ils sont allés voir le figuier, symbole de la santé et de la victoire et de la guérison. Mais ça n'a pas marché. Ils sont allés voir la vigne, et ils ont dit à la vigne, règne sur nous, mais ça n'a pas marché. Symbole de la joie. Alors ils sont allés voir le buisson d'épines, et le buisson d'épines leur a répondu, vous pourrez lire, si cette bonne foi, notez bien le mot, si cette bonne foi, alors je vais régner sur vous. Et ça c'est la nature humaine, c'est le propre de la nature humaine, de se laisser régner par le buisson d'épines. Alors que le Seigneur est venu pour apporter la paix, pour apporter la guérison, pour apporter la joie. Alors Seigneur, triomphe. Que ce ne soit pas le buisson d'épines, surtout que, d'une manière symbolique, tu t'es chargé de cette couronne d'épines. En dire tes souffrances, tes lacunes, ta misère, je m'en suis chargé sur le bois de la croix et je veux te donner la victoire et le triomphe. Ça, c'est le paradoxe. Dans le livre, alors si vous voulez pleurer et vous lamenter, il y a un livre spécial pour vous, les Lamentations de Jérémie. D'ailleurs, allons voir Jérémie dans ses Lamentations. Jérémie, Lamentations chapitre 3, Lamentations de Jérémie, chapitre 3. Verset 17. Jérémie va connaître une phase que l'on pourrait appeler de déprime, dépression légère. Mais un chrétien ne peut pas connaître ça. Mais Jérémie, lui, oui. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Paradoxe. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent ce matin. Ce matin. Le texte, oui, mais moi je dis ce matin, ce matin. Ô que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche, et il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Regardez un instant. Alors qu'en réalité, Jérémie ne porte pas son propre problème, mais il porte le problème du peuple. Et voici que le fardeau des eaux devient son fardeau. Il ne se dissocie pas du corps. Et l'Église, c'est un corps. Et quand quelqu'un souffre, il y a cette souffrance. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Et si le texte dit « se renouvelle chaque matin », je veux dire ce matin, « tes bontés se renouvellent ce matin dans mon cœur ». Je le veux, Seigneur. Il y a une autre amie, j'ai des amis, hein, une Sulamite que j'ai rencontrée dans un recueil de cantiques. Et cette Sulamite, elle était amoureuse. Je n'ose pas vous poser la question si ça vous est arrivé d'être amoureux, d'être amoureuse. Elle l'était, mais elle était méprisée. Ses frères la méprisaient, l'envoyaient travailler en plein soleil pour garder la vigne. Elle était méprisée par les filles du palais. Mais elle déclare, et c'est un paradoxe, et je voudrais le souligner ce matin, « Je suis noire, mais je suis belle. » Elle ne dit pas « Je suis noire et belle. » Parce que si au milieu de nous, on a des sœurs et des frères qui sont noirs, je vous annonce, pas de souci, vous êtes beau et belle. Mais elle dit littéralement, je suis brûlée par le soleil. Mes frères m'ont exposé en plein soleil à faire le travail que eux n'ont pas fait, et ma peau est devenue brûlée, tannée. Et parfois nos vies sont marquées par le mépris des autres, quand ce n'est pas de nos propres frères. De plus, les autres, les filles du palais, se moquaient. De plus, elle ajoutera, ma vigne à moi, je m'en suis pas occupée, j'en ai pas pris soin. Sans compter que le fait de garder les vignes jour et nuit des assauts, des animaux ou des voleurs, la confrontait en permanence avec les bergers qui étaient alentour, et on soupçonnait, il paraît que. C'était une époque où on disait, il paraît que. Aujourd'hui, on ne dit plus cela. Le soupçon, la suspicion. Et voici ce qu'elle dit. Je suis noire, marquée par le mépris, le jugement, le rejet, l'indifférence, mais je suis belle parce que mon bien-aimé m'aime. Et ce matin, je voudrais que ce soit le cri de notre cœur. S'il y a des blessures du passé, s'il y a des choses qui nous ont fait mal, s'il y a des circonstances qui ont déchiré nos cœurs, élevez votre voix et dites, Seigneur, je suis beau à tes yeux, parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes, Seigneur. Ton amour vaut mieux que la vie, dira-t-elle. Et le bien-aimé, lui, il ne fera que des compliments. Tu es belle. Il lui dira même à un moment donné, ma sœur, dans la communion fraternelle, ça c'est beau ça, à la sortie de l'église, bonjour frère, bonjour sœur, alléluia. On ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, mais tant pis, c'est un bon passe-passe. Mais il ajoute, tu es belle, ma sœur, et il ajoute, mon ami. Amen. Puis après mon ami, il lui dit, ma colombe, alléluia. Déjà, ça fait plaisir, hein, de dire à son épouse, ma colombe. Oui. Et pour finir, il lui dit, ma parfaite. Est-ce que vous vous rendez compte, le bien-aimé lui dit, ma parfaite. Un jour, mon épouse m'a offert un mazagran. Vous savez ce que c'est qu'un mazagran? Hein, c'est une tasse à café, vous savez, oui? Oui? Elle m'offre mon mazagran et dessus, il y avait marqué « Tu es le plus fort ». Ça fait plaisir, hein? Puis je lui ai dit « Mais sur la tienne, il y a marqué quoi ?» Sur la sienne, c'est marqué « Je suis parfaite ». Notre bien-aimé, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie, permet à son Père, à notre Père, de nous voir parfaits au travers de son sacrifice. Quelle vision extraordinaire! Il voit une Église pure, sans tache ni ride, parce qu'il a la vision du travail qui se fait. Et je dis, Seigneur, donne-moi cette vision. C'est un paradoxe. Parce que notre vision à nous, c'est de voir les détails, les problèmes, les échecs. Mais toi, tu veux me donner cette vision. Tu es belle, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. C'est ce que veut dire le bien-aimé. Alors, la Sulamite, mon amie, la vôtre aussi, oui, elle dira à un moment donné... Tu peux te lever à Quilon. C'est un vent terrible. La tempête, le froid du nord. Tu peux te lever à Quilon. Tu ne feras qu'exhaler le parfum de mon amour. Elle ajoute, tu peux te lever, vent d'autant. Celui-là, on le connaît bien parce qu'il nous fait perdre la tête. Et oui, même parfois, dans la vie spirituelle, on ne sait plus où on en est. Mais tu peux te lever, vent d'autant. Tu ne feras qu'exhaler le parfum de mon amour. Quand l'épreuve, la difficulté fait remonter l'amour et le triomphe de Christ dans notre vie, c'est le miracle de Dieu. Parce que ce n'est pas notre nature qui peut le faire. Ça, c'est le paradoxe de Dieu. Et je voudrais que vous compreniez que le triomphe de l'amour de Christ, ce n'est pas simplement d'avoir fait de nous des enfants dans le souvenir de notre baptême avec... la médaille des anciens combattants chrétiens. Ça fait 43 ans que je suis converti. Ah oui, et aujourd'hui? Le Seigneur est celui d'aujourd'hui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent ce matin. Et je voudrais que nous ayons une vision de demain, de la grâce, de l'amour de Dieu, afin d'arrêter de regarder dans le rétroviseur et de passer notre temps à dire « mais avant, mais autrefois, etc. » Seigneur, parle-nous, toi le bien-aimé, comme tu as parlé à la bien-aimée, à la Sulamite. Il lui dit à un moment donné « tu es la plus belle fleur, le lys au milieu des épines. » Et le Seigneur te dit « tu es la plus belle fleur au milieu des épines. » Arrête de regarder les épines. Tu es le lys. Au milieu des épines. Gethsémané, paradoxe, lieu du pressoir, lieu où va couler la grâce, lieu où va couler la paix, symbole de cette huile qui coule. Devant la souffrance de Christ, qui prend conscience de ce qu'il va endurer, au point où sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Paradoxe de souffrance qui nous donne la paix. Golgotha, ce moment où il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, afin que le châtiment ne tombe pas sur nous, mais sur lui, et que par ce châtiment nous ayons la paix. Paradoxe, mais triomphe de l'amour de Christ. Et je pense qu'il est capital de revenir à ce verset que l'on apprend encore aux enfants, Jean 3,16, Dieu a tant aimé. Il n'est pas dit, j'attends que vous m'aimiez, mais Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Le prophète Ésaïe dira, vous fatiguez la patience de Dieu, vous le fatiguez par vos péchés, c'est pourquoi, Ésaïe 7,19, vous le notez, vous le lirez tranquillement, c'est pourquoi. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Dieu avec nous, Emmanuel. Vous fatiguez, vous fatiguez. Alors je vous envoie le médiateur de la nouvelle alliance. Ça, c'est le paradoxe de l'amour de Dieu. Un autre texte, il dira, j'ai en horreur vos traditions, vos habitudes. Il dit même ce texte, Ésaïe 1, j'ai en horreur vos assemblées. Heureusement qu'il n'a pas mis de Dieu. Je voudrais que nous comprenions que ce n'est pas notre nom, notre église, notre mouvement, c'est notre communion qui fait la force. Dieu soit béni pour notre famille. Je ne la méprise pas. Mais nous n'annonçons pas notre famille, nous annonçons Jésus, les triomphes de Christ dans nos vies. Alors il dira, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront. Amen. Donne-moi, Seigneur, ce regard sur moi. Toi, tu es capable d'oublier, pas moi. Je te pardonne, mais j'oublie pas, me disait quelqu'un il y a quelque temps. En Normandie, on dit, je tourne la page, mais au premier courant d'air, elle revient. Il a la puissance de pardonner nos péchés et de ne pas s'en souvenir. Oh, quel miracle ! Quel miracle ! Vous savez que je gère une maison de retraite, entre autres, même si je délègue, et lorsque je fais des moments de partage avec les personnes âgées, toutes me disent, mais vous savez, on perd la mémoire. Mais il y a une chose qu'elle n'oublie pas, c'est la réflexion qu'a fait la voisine. Ça, elle ne l'oublie pas. Apprends-moi à pardonner et à oublier, Seigneur. Ça, c'est le paradoxe. Et je termine. Ça va, j'ai pas été long, hein? J'aime bien, moi, ce qui est court. J'ai eu l'occasion, pendant un certain nombre d'années, de faire des formations en Polynésie, à Tahiti. C'est très difficile. Le sable blanc, les cocotiers. Non, j'ai pas dit les vahinés. Et j'ai visité des fermes perlières. Vous savez, ces belles perles noires. Je parle des naturelles, pas de celles qui sont faites avec des noyaux en plastique. Ce grain de sable qui vient irriter l'huître. Et l'huître, au lieu de rejeter le grain de sable, va l'entourer de nacre. Et plus ce grain de sable va l'irriter, plus elle va l'entourer de nacre. Jusqu'à en faire une perle de grand prix. C'est pas Jésus la perle de grand prix. C'est vous, c'est moi. Nous n'étions qu'un grain de sable, qu'un corps étranger, qui avons irrité d'abord notre propre vie, parce qu'on n'est pas tendre avec soi-même, la vie des autres, mais surtout notre Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce que l'apôtre Paul dira, là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Ce matin, je sens peut-être ma misère, mes faiblesses, mes lacunes, et si je faisais un état des lieux, je pourrais baisser les bras, et peut-être que j'ai baissé les bras. Mais ce matin, je veux dire avec force, même s'il y a eu de la souffrance, de l'injustice, des peines, des blessures qui remontent peut-être même dans le passé, je veux ce matin dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent ce matin. Si même je t'ai irrité ou j'ai été irrité, ce matin tu me dis que tu veux m'entourer de ta grâce. Tu veux me dire que je suis beau, que je suis belle. Tu veux faire de moi une église qui brille, non pas de soi-même, de l'humanité, mais qui brille de la grâce et de la miséricorde de Dieu. J'aimerais que nous puissions ensemble nous lever, alors que Pierre et Cathy vont reprendre ce cantique. Et vous allez mettre un peu le son plus fort parce que j'aime bien entendre les leaders. Et ensemble, on rentre dans cette louange.